Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 4.
Claquement de doigts.
Oui, mais pas que, s'il vous plaît. Il y a Brice Dugénig, il y a Laurent Tessier, il y a Greg et Lucas à la réalisation. L'irremplaçable Céline Landreau pour vous accompagner jusqu'à 20h. Vous réagissez, vous commentez, vous avez la page Facebook de l'émission à disposition, le compte Twitter. Vous êtes tous les bienvenus. Voici le sommaire.
35 degrés en septembre, des phénomènes climatiques toujours plus extrêmes. Vous découvrirez ce soir à quoi ressembleront nos villes de demain pour faire face à cette météo qui se dérègle. Le Tour de France au Slovène, 2 millions d'habitants et des performances sportives remarquables sur le Tour, donc, mais aussi en basket, en hand ou en ski. Coup de projecteur sur ce petit pays des Balkans et son étonnant rapport au sport. Le grand perdant, le loser de la semaine, épinglé chaque vendredi par Céline Landreau. Et ce soir, Céline, vous pointez du doigt une révolution manquée.
Oui, les Césars ou l'histoire d'un mauvais film.
Le billet retour de Brice Dugénig quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on ne parle plus. Au programme du jour, une affaire qui a marqué l'histoire judiciaire française, Jean-Claude Roman.
Oui, 15 mois après sa libération, que devient l'homme qui a tué 5 membres de sa famille pour mettre fin à son mensonge?
Entrée plat dessert avec vos 3 infos pour briller au dîner. Vous nous ferez rêver en nous parlant de vos initiatives, de vos projets dans Marche ou Rêve. Et puis nous aussi, on vous fera rêver vers 19h40 avec un cadeau paradisiaque, un séjour pour deux en relais château sur l'île de la Lagune à Saint-Cyprien. Rien que ça, oh, on défait le monde. Saison 2, déjà l'épisode 4, en route pour l'aventure.
Allez hop, on y va, on va.
On défait le monde dans RTL Soir.
Mon Dieu, on surfe tous les matins de la semaine à 7h20 et puis juste avant 8h, Cyprien Signy, surfeur de la semaine le vendredi dans On défait le monde.
Et cette semaine, toutes nos certitudes se sont écroulées en quelques secondes. Oui, mesdames, messieurs, désormais, une nouvelle doctrine régit nos existences. Attention.
Les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts.
Oui, les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts. Et dire qu'avant, on pensait que...
Les amis de mes amis sont mes amis.
Oui, mais ça c'était avant. Maintenant, les cas contacts des cas contacts ne sont décidément pas des cas contacts. Cette semaine, les amis, on les aura mis à toutes les sauces. Tiens d'ailleurs, la polémique sapin de Noël a rebondi hier grâce à Nicolas Sarkozy qui nous a offert l'instant émotion de la semaine.
C'est ça la régression. Moi, quand j'étais enfant, j'allais avec ma mère... J'attendais ce jour pratiquement toute l'année. On allait choisir le sapin. J'avais pas le sentiment d'être un criminel qui faisait du mal à l'humanité.
C'est beau, hein? Et ces écolos qui voudraient priver ces milliers de petits Nicolas de ces moments féeriques. Non mais où va le monde? Bon, sinon, je sais que vous êtes nombreux à vous demander où Ségolène Royal trouve cette énergie pour systématiquement revenir dans l'actualité alors qu'objectivement, elle n'a plus vraiment de raison d'y être. Comment fait-elle pour garder cette niaque? Eh bien, elle s'est confiée sur ses goûts musicaux à BFM TV. Et là, une révélation.
J'ai un album culte. Qui est assez très classique, hein. C'est l'intégrale des symphonies de Beethoven dirigée par Philippe Jordan. Classique. Mais le matin, pour se donner de l'énergie, c'est Kenji. Beaucoup d'énergie.
Hein. Eh oui, le matin, c'est Kenji. Donc dans la salle de bain de Sego et au petit-déj dans la cuisine. Réveil chez Ségolène Royal. C'est les voisins qui doivent être contents. Mais bon, tout ça, c'est de l'anecdotique. Non, le vrai événement médiatique de la semaine, il était chez nous, ici, à RTL, mardi matin. On a envoyé du très lourd.
This is CNN Breaking News.
Ah bah au moins ça, oui, parce que mardi matin, 7h45 sur RTL, avec Alba Ventura, c'était comme ça.
Bonjour Bill Gates, good morning.
Good morning.
Et merci d'être avec nous depuis Seattle.
Oui, il est là, Bill Gates.
Merci beaucoup Bill Gates, merci.
Thank you.
Thank you very much.
Thank you very much Bill, merci d'être passé. C'est la classe quand même. Bill Gates à RTL, po. Et puis, c'est vrai. Et puis puisqu'on est sur du rêve américain, un mot de la campagne présidentielle, tout là-bas au Nouveau Monde, avec cette visite de Joe Biden à Porto Rico.
Alors,
good morning Joe. Alors le candidat arrive au pupitre tranquille en disant
I just have one thing to say.
Je n'ai qu'une seule chose à dire. Et là, il sort son portable de sa poche, il le colle contre le micro et
All right.
Oh, génial. Il leur met Despacito de Luis Fonsi, la star portoricaine. Comme ça, il le regarde et il dit juste, vous allez voir, Si j'avais autant de talent que lui, je serais élu par acclamation.
Thank you so much.
Merci. Et il s'en va. Merci d'être passé aussi. Hein. Enfin, terminons avec l'actu média de la semaine, hein, le départ du 13h de Jean-Pierre Pernaut. L'occasion de tirer un coup de chapeau à notre ami Pascal Pro et à son flair sans égal, à sa connaissance incomparable du monde médiatique.
Hein. Du paf.
Ah oui, du paf, puisque Pascal nous annonçait le successeur de Jean-Pierre au 13h en exclusivité.
Moi, je vous dis, je peux même vous dire qui ce sera. On parie le Denis Brogniart.
Ouais, on parie Denis Brogniart. Et donc, hein,
on sait depuis hier qui sera remplacé par Marie-Sophie Lacaro de France 2.
Joli, Pascal. Denis Brogniart reste à Koh-Lanta. Bien joué. Et surtout à la semaine prochaine.
Ah, il n'y avait que des pépites en ce vendredi soir. Juste pour le plaisir, on peut se réécouter l'accent parfait, accent anglais d'Alba Ventura qui remercie
Bill Gates. Merci beaucoup, Bill Gates. Merci.
Thank you.
Thank you very much.
Thank you very much. Yeah.
Formidable. Alba Ventura du lundi au vendredi. L'entretien à 8h moins le quart.
RTL Soir, on défait le monde.
La grosse info de ce soir, ça concerne la ville de demain.
Oui, on a encore battu des records de température pour un mois de septembre cette semaine. Plus de 30 degrés dans une grande partie du pays. Le temps se dérègle, été plus chaud, phénomène climatique plus extrême, consommation d'énergie qui flambe. Alors ça fait un peu apocalyptique dit comme ça, mais c'est la réalité. Alors, avec Céline, on s'est demandé comment la ville allait s'adapter à tout ça et surtout, à quoi ressembleraient nos villes de demain.
Et nos villes d'aujourd'hui, hein, déjà parce qu'elles s'adaptent actuellement déjà au changement climatique. Pour éviter notamment la surchauffe urbaine. Et pour ça, les plans des villes d'abord changent pour faciliter par exemple la circulation de l'air, éviter qu'un nouveau bâtiment bloque un couloir d'air et empêche ainsi le rafraîchissement d'un quartier. Mais l'enjeu, c'est aussi la couleur. Et là, on revient au célèbre effet albédo. Vous savez que les couleurs sombres absorbent davantage la chaleur du soleil. Eh bien, en ville, c'est crucial. C'est donc une vraie question pour Solène Marie, experte en urbanisme à l'ADEME, l'agence de la transition écologique.
C'est vrai que les routes et les trottoirs bétonnés sont vraiment des gouffres à chaleur, hein. Ils absorbent jusqu'à 95% du rayonnement solaire la journée et le restituent la nuit. Donc il y a pas mal de communes qui repeignent l'asphalte dans un revêtement blanc ou gris clair. À Doha, c'est le bleu qui a été choisi, hein, pour repeindre les routes d'une peinture refroidissante, entre guillemets. Et donc là, ça peut permettre d'abaisser la température du bitume de l'ordre de 15 à 20 degrés.
Préparez-vous donc, possible que nos routes et trottoirs deviennent bientôt bleus ou blanches.
Bleu et blanc, c'est bien, c'est les couleurs de l'OM. Mais on met pas un peu de, on met pas un peu de vert aussi dans tout ça?
Le vert gagnant, hein, si vous voulez faire référence au football. Ouais. Alors oui, bien sûr, la ville de demain sera plus verte, plus végétale. Mais pour que ça ait un effet conséquent, cette végétalisation ne doit pas être faite n'importe comment.
Végétaliser suffit pas, hein. C'est vrai que si on met des fleurs en pot, ça va pas du tout avoir le même impact qu'un arbre en pleine terre. Il y a des études qui ont bien montré que de coupler différentes strates, donc arborées, arbustives, herbacées, améliore le potentiel de rafraîchissement. Par exemple, les prairies Saint-Martin à Rennes, qui ont reconverti un ancien site industriel en un parc naturel urbain. Ça a fait baisser de 5 degrés en moyenne cet espace par rapport au centre-ville de Rennes.
Et d'un point de vue économique, la mise en place de ces parcs, ça peut aussi être très positif. À Brest, les prix sont 17% plus élevés près des parcs. Autre exemple, à Nice, la promenade du Paillon à un parc urbain a fait grimper de 20% le prix du foncier à proximité.
Alors Céline, le changement climatique, c'est pas seulement le réchauffement de la planète, il y a aussi des phénomènes de plus en plus extrêmes, les ouragans, les typhons, les inondations.
Alors pour ça aussi, on s'adapte et se développe donc le concept de ville éponge.
C'est vrai que l'artificialisation croissante, ça intensifie les inondations. Et c'est vrai que rendre les sols perméables a un impact sur le ruissellement des eaux de pluie. À Shanghai, ils ont vraiment une démarche de matériaux perméables qui permet du coup à l'eau de pénétrer dans le sol. Donc des terre-pleins centraux qui sont remplis de plantes, il y a des jardins pluviaux, une multiplication de parcs, c'est une gestion aussi des toitures végétalisées. Là, à Shanghai, l'objectif, c'est 80% de la surface des villes perméables pour aboutir à une ville éponge en 2030.
Alors, on n'en est pas encore là chez nous, mais s'adapter au changement climatique, c'est aussi éviter de l'aggraver. Solène Marie de l'ADEME en parlait à l'instant, des terrasses végétales. En France, on voit apparaître aussi de plus en plus de façades végétales, et notamment dans les réhabilitations. Geoffrey Galland est architecte et travaille sur ces projets.
Sur la ville de Fourmies, dans le nord de la France, on est en train de réhabiliter un ancien centre commercial. On réemploie des matériaux qu'on déconstruit de ce bâtiment pour les réutiliser de manière différente. Et on va végétaliser les façades. La présence du végétal sur une façade ou sur une toiture augmente la résistance thermique du bâtiment. On va avoir une réduction de la pénétration du bruit dans l'immeuble. Et il est évident qu'in fine, ce bâtiment, il aura un visage tout à fait particulier.
Un visage auquel il va falloir s'habituer parce que ce type de projet se multiplie et les bienfaits en termes de biodiversité sont eux aussi évidents.
Et Céline, c'est vrai qu'on ne met pas toujours les mêmes plantes en fonction de du nord ou du sud, en fonction de la façade.
Mais c'est vrai et c'est plutôt souhaitable parce qu'évidemment, vous n'avez pas la même résistance d'une plante si vous êtes exposé plein nord, plein sud, l'est ou l'ouest. Il faut faire ça en fonction de leur résistance au soleil, à l'ombre. Et puis l'objectif, c'est que ces plantes elles soient les plus indépendantes possible, qu'on n'ait pas besoin de venir les arroser évidemment tous les 15 jours.
Oui, c'est mieux. La ville de demain, le dossier du soir dans On défait le monde. Vous restez bien là dans un instant. Laurent Tessier, les amis, pour la première info pour briller au dîner. A tout de suite.
RTL Soir, On défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
19h31, la première info pour briller au dîner, pour vous aider justement à cartonner à table au milieu des amis ou en famille, c'est avec Laurent.
Et vous en avez parlé Stéphane, dès 18h, Roger Carrel nous a quitté la semaine dernière à 93 ans, la légende du doublage, des voix inoubliables, des voix de notre enfance, hein, Winnie l'ourson, Alf, C3PO, Mickey et aussi Astérix.
Je crois que je vais tout de même boire un petit coup de potion magique. L'avenir du village est en jeu après tout.
Alors justement, la question ultime ce soir, quelle est la recette de la potion magique de Panoramix? On est ambitieux dans On défait le monde.
Qu'est-ce que c'est que ce
Quels sont les secrets de David Copperfield?
Alors, force surhumaine, plusieurs heures, petite recette du soir. Un internaute, hein, c'est très sérieux, a mené l'enquête et recensé les ingrédients cités au fil des albums. Il vous faudra donc, notez bien, sinon il y a le podcast pour écouter, du gui, du homard pour le goût, mais aussi des fraises, des carottes, des navets, céleri, du sel, des fleurs des bois et des trèfles à quatre feuilles. On rajoute un petit peu de poisson frais, du jus de betterave. Bon, selon les éditions Albert René, il en manque encore, mais on est sur la bonne voie.
Gourmand croquant.
Ouais, c'est ça.
Non, mais l'association fraise homard poisson frais, on n'est pas sûr. Hein.
Et quelle voix il faisait dans Winnie l'ourson? Pardon.
Ah, il les faisait toutes.
À toutes.
Ouais.
Donc porcinet aussi.
Ouais.
D'accord. Très bien.
Laurent Tessier.
Merci Brice, je prends.
Pour la première info pour briller au dîner en ce vendredi soir, 19h32.
Allume la lumière.
Allume la lumière, vous commencez à connaître, c'est l'un des nouveaux rendez-vous de cette saison 2 dont défait le monde.
Oui, dans cette rubrique, on invite celui ou celle qui va nous permettre d'y voir plus clair dans l'obscurité de l'information. Et ce soir, on allume la lumière sur la Slovénie, petit pays des Balkans qui est en train de faire main basse sur le Tour de France. Deux Slovènes aux deux premières places, Roglic et Pogačar. 1600 licenciés en cyclisme seulement et donc deux qui dominent la plus grande épreuve de vélo, Brice.
Oui, ce n'est pas tout. Avec seulement 2 millions d'habitants, les Slovènes cartonnent aussi en basket. Ils sont champions d'Europe en titre. En handball, médaillé de bronze au dernier Euro. Les volleyeurs sont vice-champions du tournoi européen l'année dernière. Et puis en ski, Tina Maze a été 4 fois championne du monde, 4 fois médaillée olympique. Quel est donc le secret slovène?
Et bah pour essayer d'y voir plus clair, on reçoit ce soir Laurent Acid, docteur en géopolitique à l'Université Paris 8. Spécialiste de la Slovénie. Bonsoir Laurent Acid.
Bonsoir.
Alors directement là, c'est quoi le rapport des Slovènes au sport?
Disons que les Slovènes ont une topographie facile pour la pratique du sport, dans le sens où ils ont des montagnes avec les Alpes, un accès à la Méditerranée qui est assez restreint et à 45 km de littoral. Et le week-end, par exemple, beaucoup de Slovènes vont dans les montagnes pour la randonnée, l'escalade. Il y a une vraie pratique sportive qui va au-delà simplement du paysage, qui est aussi liée à l'organisation d'une journée de travail en Slovénie, où on finit souvent assez tôt. Beaucoup de Slovènes finissent pas plus tard que 3 ou 4 heures de l'après-midi, parce qu'ils commencent tôt. Du temps de la Yougoslavie, on commençait ses journées tôt, et c'est une pratique qui est restée.
Et ça permet ça, une plus grande pratique et un meilleur entraînement aussi, pour pouvoir faire de meilleures performances?
Oui, encore que sur le vélo, là, il n'y a pas non plus dans l'histoire de la Slovénie une pratique du vélo qui est très prononcée. Il n'y a pas un engouement généralisé en Slovénie pour le vélo. Alors là, évidemment, comme les deux premiers du Tour de France sont slovènes, tout le monde suit ça d'assez près là-bas. Ce n'est pas un sport national comme peut l'être le ski, par exemple, où beaucoup de Slovènes pratiquent le ski et où les performances des skieurs slovènes font davantage sens.
Vous y étiez encore en Slovénie, pas plus tard qu'au départ du Tour de France. Il y avait déjà un engouement avant le départ du Tour ou pas?
Là, depuis que le Tour est parti, oui, les Slovènes ont une grande impatience chaque jour en allumant leur télévision de voir ces Slovènes aller jusqu'au bout. La une de Delo, le principal quotidien slovène le samedi du départ, était sur fond d'une grande photo de Roglic. Ce sera le Tour de Roglic et pas celui du Corona. Donc ça va vous donner une idée des attentes de la presse slovène sur ces deux coureurs.
Et est-ce qu'au niveau politique, le sport est perçu comme un moyen de faire connaître le pays, un moyen de glorifier les athlètes, de glorifier le sentiment d'appartenance nationale?
Le président actuel en Slovénie, Pahor, qui a été élu en 2012, avait fait campagne à la présidentielle avec une affiche où il était en train de courir avec un dossard sur le ventre. On le voit souvent aussi sur des photos en train de nager. Donc cette image du sport, elle est aussi largement mise en avant dans le message politique qu'on souhaite faire passer.
Et avec tous ces résultats sportifs assez exceptionnels, forcément, il y a le soupçon du dopage qui existe, qui arrive. Vous connaissez bien le pays. Est-ce qu'il y a du dopage? Est-ce que c'est culturel là-bas aussi ou pas?
Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je ne sais pas si le dopage, d'ailleurs, est véritablement culturel. Il peut être institutionnalisé à l'échelle d'un État, comme c'était le cas dans l'ancienne Europe communiste. Mais la Slovénie a assez peu à voir avec cette ancienne Europe communiste. C'est un pays qui fait partie de l'Union européenne, de l'espace Schengen, de la zone euro, qui est complètement européanisé. Le niveau de vie est assez comparable à celui de la France, avec des salaires un peu plus bas, mais pas très différents. Vous mentionnez, par exemple, les performances slovènes. C'est vrai, mais n'oubliez pas que la Croatie, en finale de la Coupe du monde de football. Il y a une pratique généralisée du sport dans l'espace ex-yougoslave et que la Slovénie réussit aussi un peu mieux parce qu'elle a plus de moyens que les autres ex-républiques yougoslaves. La question du dopage se pose plus par rapport au vélo que par rapport à la Slovénie. On a vu dans le passé que le Tour de France véhiculait du dopage, mais bon, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui permet de dire que ces coureurs soient dopés, ou en tout cas pas plus ou pas moins que les autres.
Eh ben merci beaucoup, Laurent Assid, d'avoir allumé la lumière sur la Slovénie.
Ben, je vous remercie.
Allumer la lumière dans On défait le monde, il est 19h36.
À suivre dans On défait le monde.
Votre deuxième info pour briller, le loser de la semaine et surtout le jeu.
On défait le monde dans RTL Soir. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Ouais. On est ensemble jusqu'à 20h, vous le savez évidemment. Deuxième info pour briller au dîner ce soir, c'est avec Brice et ça concerne les Amish.
Oui, les Amish dont on a beaucoup parlé, vous le savez, ces derniers jours avec les propos du président de la République. C'est cette communauté qui refuse le progrès. Alors, j'ai une question, savez-vous où le mouvement Amish est né?
Aux États-Unis.
Évidemment logique. Eh bien non. Ah. Plus simple et surtout plus proche. Le mouvement Amish est né chez nous, en France, dans la commune de Sainte-Marie-aux-Mines. C'est une ville qui se trouve aujourd'hui dans le département du Haut-Rhin, donc en Alsace. En fait, en 1693, c'est là qu'a été fondée la congrégation. Expulsés en 1712 par Louis XIV, qui n'en veut pas dans le royaume. Ils sont donc nombreux à partir vers les Pays-Bas où ils trouvent refuge. Et de là, ils vont traverser l'Atlantique pour aller en Amérique où cette communauté va finir par s'installer en Pennsylvanie, puis dans l'Ohio et l'Indiana.
Voilà, on a appris des choses une fois de plus. C'est l'info pour briller au dîner avec Brice du Génie.
RTL. Le loser de la semaine.
19h40, on est ensemble pendant 20 minutes encore, c'est donc l'heure du loser.
Et ce matin, elle nous disait en préparant cette émission qu'elle était de bonne humeur. Ce qui en langage landreau signifie qu'elle râle un poil moins que d'habitude. Mais c'est pas pour autant qu'elle va épargner le loser, hein, le grand perdant de la semaine, celui ou celle qui a pas eu le bon horoscope ou le karma espéré. Et ce soir, Céline, bah c'est un peu le mauvais film de la grande famille du cinéma.
Les Césars, cette douce musique qui enchante traditionnellement l'un de vos vendredis de février. Et qui a dit qu'on s'ennuyait aux Césars? Pas cette année, en tout cas, rappelez-vous, c'était le 13 février, à deux semaines de la cérémonie.
La direction des Césars annonce ce soir sa démission collective.
Tout le monde démissionnait à deux semaines de la soirée de l'année pour dénoncer l'opacité de la gestion de l'Académie, mais aussi la polémique Roman Polanski, le réalisateur accusé de viol et dont le film J'accuse avait obtenu 12 nominations. La 45e cérémonie animée par Florence Foresti avait donc été mouvementée.
Faut qu'on règle un dossier. Sinon, il y a un moment où on va avoir un souci. Il y a 12 moments où on va avoir un souci.
Et effectivement, il y a eu un souci.
Le César de la meilleure réalisation est attribué à
Roman Polanski pour J'accuse.
Et là, scandale pour une partie de l'assistance. Adèle Haenel se lève, quitte la salle. Virginie Despentes publie une tribune. Des polémiques en cascade. Mais quelques mois plus tard, au cœur de l'été, on a eu le sentiment que tout s'était enfin arrangé dans la grande famille du cinéma français. Les Césars changeaient leurs règles de fonctionnement.
Les statuts ont été rénovés, ils prévoient désormais une parité homme-femme intégrale dans les instances de décision.
Et donc là, comme vous, on y a cru, on a imaginé que le grand soir avait eu raison du monde d'avant. Mais ça, c'était sans compter sur le scénario des maîtres du 7e art, car cette semaine,
Roman Polanski reconduit au sein de la prestigieuse Académie des Césars.
Alors que l'Académie a élu sa nouvelle Assemblée Générale.
Surprise, une vingtaine de personnalités historiques ont été réélues d'office à leur demande. Alain Terzian, le président sortant, en fait partie, tout comme donc le réalisateur de J'accuse, tous deux pourtant à l'origine de l'implosion en plein vol des Césars l'hiver dernier.
Un petit point du règlement qui avait échappé à beaucoup. Nouveau scandale donc, et si la révolution se fait en marchant au César, ça ressemble quand même à du moonwalk.
Voilà, ça c'est dit, bien dit même. Céline Landreau pour le titre de
moonwalk,
loser.
Moonwalk, c'est
de
pas
ce
facile à caser
ça.
Moonwalk.
Ah, non, mais ça c'est fait, joué. 10 points. On a un cadeau pour les auditeurs évidemment, Cyprien.
Ah,
c'est mon cadeau.
Eh oui, le cadeau pour découvrir ce qu'on vous offre ce soir.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Notre Monsieur Cadeau. C'est notre réalisateur Grégory Caranoni. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre boîte magique?
Ce soir, c'est exceptionnel. Ce soir, vous jouez pour un séjour de deux nuits dans un relais château. Sur l'île de la Lagune, à Saint-Cyprien, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Deux nuits donc, dans un 5 étoiles, entre mer et montagne. Alors imaginez, je plante le décor, tout simplement. Cet hôtel, nigé sur une île privée, je sais qu'on a le temps. Avec au dernier étage, un lieu unique dédié au bien-être. Il y a un centre thalasso spa face à la Méditerranée. Et si vous ne parvenez jamais à choisir entre la mer ou la piscine, il n'y a pas une, mais deux piscines dans cet hôtel. Dont une sur le toit. Et en plus, elle est chauffée.
Mais elle marche.
Non, mais je vous assure, c'est incroyable. Et enfin, vous pourrez dîner dans un resto, le resto de l'hôtel. Il y a une étoile au guide Michelin.
Ok. Eh ben, c'est pas mal comme cadeau. Donc ça, on vous l'offre. Mais avant, il faut répondre à la question du soir. Alors attention, écoutez bien, cette question concerne... l'hymne Slovène, la Slovénie. On vous parlait tout à l'heure de la Slovénie qui domine le Tour de France. Le maillot jaune s'appelle Roglic. Mais quel est son prénom? Est-ce que c'est A, Primoz Roglic, B, Segundos Roglic, ou C, Tersos Roglic? Primoz Roglic, Segundos Roglic ou Tersos Roglic? Vous avez la bonne réponse, 32-10, on tirera au sort parmi les gagnants et on passera un petit coup de fil au vainqueur en toute fin d'émission. Attention, il y a un magnifique cadeau à gagner.
Et c'est celui qui est premier au classement général. Hein.
Ouais. Absolument.
D'accord.
J'espère qu'il n'y a pas trop de Slovènes qui nous écoutent, sinon on leur demande pardon.
Il y a Greg qui veut parler encore.
Ouais, je reprends un peu de temps. Demain, c'est le contre-la-montre. J'ajoute une montre RTL.
Allez, 32-10. Précipitez-vous, le standard est accessible dès maintenant. La réponse, bien sûr, le vainqueur. Auditeur ou auditrice, vous êtes les bienvenus. Il est 19h45.
RTL Soir, on défait le monde.
Le billet retour, l'heure du billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on parle moins aujourd'hui.
Et ce soir donc, Jean-Claude Roman, libre depuis un peu plus d'un an, souvenez-vous, vous connaissez forcément ce fait divers, une histoire qui a marqué la France.
Dans la maison gisent les corps de Florence, son épouse, et de leurs deux enfants âgés de 5 et 8 ans. Jean-Claude Roman les a abattus la veille, un par un.
Il va dans le Jura chez ses parents, à 80 km de là. Il les tue, ainsi que leur chien.
En 1993, l'homme abat froidement toute sa famille, qui allait découvrir qu'il leur mentait depuis 18 ans, en se faisant passer pour un médecin chercheur à l'OMS. Jugé, condamné à la perpétuité, il a été libéré après 26 ans de prison, dans la nuit du 27 au 28 juin 2019. Bon, alors cette nuit-là, Brice, il quitte la prison centrale de Saint-Maur près de Châteauroux. Et alors, il est parti où?
Eh bien, Jean-Claude Roman, il n'est pas parti très loin, à une centaine de kilomètres à l'ouest, entre Poitiers et Châteauroux, sur la commune de Fongombeau. 246 habitants, et plus précisément, dans l'abbaye Notre-Dame de Fongombeau. C'est un bâtiment du XIe siècle dans lequel vit une cinquantaine de moines bénédictins, des moines qui ont une vision assez traditionnaliste de la religion, avec par exemple les messes en latin. C'est donc là désormais qu'il vit, et il mène une vie monacale.
Et pourquoi il est parti là-bas?
Alors, d'abord, il y avait l'idée de trouver un lieu dans lequel, évidemment, il croise le moins de personnes possible. On avait d'abord pensé à une bergerie, une communauté Emmaüs, mais c'était trop exposé au public. Et puis, au cours de sa détention, Jean-Claude Roman, il s'est réfugié dans la religion. C'est en tout cas ce qu'il a dit. Il y avait donc cette idée de continuité. Et puis, il doit porter un bracelet électronique, n'a pas le droit d'entrer en contact avec les membres de la famille des victimes, c'est-à-dire son ex-belle-famille. Il ne peut pas non plus prendre la parole sur l'affaire. Et puis, il ne peut pas aller en Rhône-Alpes, en Bourgogne, en Île-de-France, en Franche-Comté, des régions dans lesquelles vivent les membres des familles des victimes. Donc, au regard de toutes ses obligations judiciaires, bien finalement, le monastère, c'était la bonne solution.
Et du coup, Boris, il fait quoi de ses journées?
Alors, il vit comme un familier. Un familier, c'est une personne qui n'est pas moine, mais qui vit dans le monastère, qui participe à la vie, aux activités. Il assiste aux messes et un travail lui a été affecté. La numérisation des archives sonores du monastère, où le chant grégorien est une pratique centrale, ainsi que la numérisation de la bibliothèque, c'est un domaine dans lequel il avait travaillé pendant sa détention et donc il est compétent. Il participe également à certains travaux magnifiques manuel, notamment au jardinage, à l'entretien du parc du monastère. Il dort dans sa propre chambre, il mange avec les moines, mais je le répète, il n'est pas entré dans les ordres.
Et alors, est-ce qu'il peut sortir? Est-ce qu'il a des contacts avec les habitants du village?
Aucun contact extérieur. Ça fait partie, en fait, de cet accord. Les habitants du village ne l'ont jamais vu, puisque même son entrée au monastère, elle s'est faite en catimini, de nuit, à 4h du matin, encadrée par la gendarmerie. Son arrivée à l'époque a un peu soulevé quelques inquiétudes dans le village, mais les autorités ont vite rassuré tout le monde, car Jean-Claude Roman ne peut pas quitter les 6 hectares du parc de ce monastère. Depuis son arrivée, donc, personne ne l'a jamais vu, et dans le village, les gens disent d'ailleurs que c'est même pas un sujet de conversation.
Et pour ses ennuis judiciaires, ça y est, c'est terminé?
Alors, il a toujours, je vous le disais, ce bracelet électronique qu'il porte la nuit, ainsi qu'après le déjeuner, pour montrer qu'il n'a pas quitté le monastère. Normalement, il doit porter ce bracelet électronique encore pour un peu moins d'un an, et il est censé rester dans ce monastère jusqu'au milieu de l'année prochaine, mais cela pourrait être prolongé, ce sont les juges qui vont décider, mais quoi qu'il arrive, il doit encore rester à la disposition de la justice pendant au moins 10 ans pour ce qu'on appelle des mesures de contrôle, c'est-à-dire un suivi psychologique, le suivi par un juge, justement, l'objectif, si vous voulez, c'est de continuer à surveiller Jean-Claude Roman au-delà de sa vie dans le monastère, parce que je le rappelle, c'est quand même un homme qui a tué sa femme, ses deux enfants et ses parents.
Voilà, c'est riche en infos, c'est signé Brice du Génie Bi, et retour en ce vendredi soir, 19h48, vous restez là, la troisième info pour briller au dîner, c'est Cyprien qui nous parle de... Bon, on va le savoir.
On défait le monde sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Oh non.
Oh, ah,
ça gâche.
Ça innove.
Ouais. Ah bah c'est Danny Briand pour briller.
Ah oui, c'est ça. Il y a Cléphy qui...
Il y a quand même un gros travail de réflexion.
Ah ouais, il y a du boulot derrière tout ça. Troisième info pour
tout
briller au dîner.
Reste...
S'il vous plaît, Brice, merci. Cyprien, ça concerne Mario?
Évidemment, c'est ça. Cette semaine, on a fêté les 35 ans de la sortie de Super Mario Bros. Jeu qui a bouleversé l'histoire du jeu vidéo. Et ce soir, je vais vous apprendre qu'en réalité, le personnage de Mario est né d'un véritable accident industriel. En fait, Nintendo, qui n'était qu'une petite boîte sans le sou à l'époque, avait prévu de lancer un nouveau jeu avec le personnage de Popeye. Sauf qu'ils n'ont jamais réussi à acheter les droits. Ils n'avaient pas assez d'argent. Donc en catastrophe, avec les moyens techniques de l'époque, Shigeru Yamamoto a créé le personnage de plombier qui, au départ, s'appelait Jumpman. Sauf que Jumpman, faut reconnaître que c'est nul comme nom. Et là, on a le propriétaire...
Ça leur fera plaisir chez Nintendo.
Non mais c'est vrai, il galérait. Et là, le propriétaire de l'entrepôt qui sert de siège social américain à Nintendo décide de faire des concessions sur le loyer aux Japonais qui galèrent pour le payer. Ils ont plus d'argent. Et ce propriétaire s'appelle Mario Segal. Et en son hommage, pour le remercier, les Japonais ont baptisé Jumpman Mario.
Voilà une info supplémentaire à l'occasion des 35 ans.
Non mais il est tellement fier.
Il est trop content. Ouais.
On aura le verdict tout à l'heure, évidemment, pour ces infos pour briller. Il est 19h52, c'est Marche au rêve, c'est votre moment quand vous nous racontez vos projets, vos envies, vos initiatives.
Ouais, c'est un peu votre libre antenne, les amis. Et ce soir, Laurent, on va allier sport et projet humanitaire.
Ouais, ce n'est pas Marche au rêve, mais cours au rêve ce soir avec Magali.
Oh.
Ouais, c'est beau, hein.
Merci Brice.
Bravo, avec 5 de ses amis de Fougères en Bretagne, elles vont se lancer dans un défi. Après le Sénégal en 2018, les Felger Gazelles seront au Népal à partir du 18 octobre. Et dans leur valise, des dizaines de kilos de fournitures scolaire pour les enfants défavorisés. Bonsoir Magali.
Bonsoir.
Racontez-nous, comment est né ce projet?
Eh ben en fait, on est un groupe de 6 copines de course à pied. On s'est rencontrés dans un club de sport. Et puis, à force de faire des courses de 10 km, semi-marathon, marathon, on a eu envie de donner un autre sens à notre foulée. Et du coup, voilà, on a pensé à ce projet humanitaire.
Et vous courez depuis plusieurs années. Vous avez un entraînement particulier en ce moment avant de partir pour le Népal?
Là, en ce moment, on est à 3 entraînements par semaine et incessamment sous peu, on va passer à 4 entraînements, voire 5 par semaine.
Et comment vous récupérez les fournitures scolaires que vous allez donner aux enfants népalais?
Alors, on a un partenariat avec des écoles, un collège et une école primaire. Et on récupère les fournitures par le biais de ces projets, en fait, avec eux.
Et ça a été compliqué à monter ou pas?
On a créé une association. Mmh. Et puis ensuite, on a démarché des partenaires, on a démarché des écoles, on a démarché des entreprises pour récupérer des fonds, des fournitures, etc. Quoi.
C'est ça le plus difficile? C'est plus difficile que courir?
Et puis pour la... Pour... Ah bah, il faut effectivement, il faut s'accrocher pour réussir à trouver les bons sponsors et puis les fournitures. Et, mais surtout, il y a aussi l'association des Sénégazelles, je tiens à en parler, puisque c'est grâce à eux que on peut faire ce projet maintenant.
Et sur place, comment vous allez organiser cette distribution? Comment ça va se... Vous allez de point en point? Comment vous faites ça?
Et ben en fait, avec l'association des Sénégazelles, c'est un organisateur qui s'occupe de tout ça. Donc lui, il a vraiment mené le projet aussi de son côté. Et donc on va arriver, on va faire nos courses de village en petit village. Et les fournitures seront distribuées à l'arrivée dans les écoles, dans chaque petit village.
D'accord. Combien de kilomètres par jour vous courez?
On fait entre 7 et 9 kilomètres par jour à peu près.
Ouais, c'est ouais, peinard ça.
Oui.
Oh,
c'est facile, c'est une bonne école. Hein.
Non, je blague, hein, évidemment.
Il y a l'altitude en plus. Il
y a l'altitude, voilà, à Katmandou, c'est à 1200 mètres.
C'est ça. C'est vraiment un chouette projet où on peut allier course à pied, plaisir et puis ce côté humanitaire où c'est très très riche pour nous de pouvoir faire ça et puis montrer en France aussi quand on va faire un retour dans les écoles, leur montrer que ben dans le monde c'est pas forcément, il n'y a pas forcément d'accès pour tout le monde à la scolarité. Et qu'on a vraiment la chance en France, nous, de pouvoir avoir cet accès-là. Donc voilà, je trouve que c'est important de faire un retour, surtout dans les écoles.
Ouais, le grand voyage est prévu à partir du 18 octobre. Pour le Népal, on prendra de vos nouvelles.
Évidemment, bravo pour tout ça. Merci de m'avoir partagé, bien sûr, dans Marche au Rêve. C'est tous les vendredis. Si vous avez des envies, des initiatives, justement des projets, vous partagez tout ça sur la page Facebook de l'émission. Gagnant ou gagnante?
Gagnant, Pierre de Clermont-Ferrand. Bonsoir, Pierre.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de me rappeler, bonsoir.
Eh ben, vous avez gagné le cadeau, alors je vous rappelle la question. Ah ouais, comment s'appelle le leader du Tour de France? Primoz Roglic, Segundos Roglic ou Tertios Roglic?
Eh ben, c'est pas les deux derniers, c'est le premier, donc c'est Primoz.
Bravo. Donc ouais, vous partez pour un week-end de folie à l'île de la Lagune à Saint-Cyprien.
Ouais.
Vous savez avec qui vous allez partir?
Ah oui, je sais, bien sûr. Elle doit écouter RTL en plus en ce moment, donc il n'y a pas de souci.
On ne peut pas savoir qui.
On ne peut pas savoir.
Et puis alors, je voulais juste dire que Cyprien, il est complètement fou, faut l'enfermer. Que Stéphane, j'adore sa voix, parce que c'est une voix, mais alors, magique.
Mais alors,
c'est une voix sensuelle, magnifique. Une équipe super.
Voilà. Ah bah merci, c'est adorable.
Merci beaucoup.
Un mot sur la voix de Brice, non, ça vaut pas
non,
le coup.
Non, s'il vous plaît, arrêtez-vous là. Arrêtez-vous.
J'ai oublié Brice, super.
Profitez bien, Pierre, merci d'avoir participé au 32-10, c'est tous les vendredis soirs. L'équipe revient vendredi prochain pour le numéro 5 déjà de On défait le monde. Au revoir tout le monde.
À la semaine prochaine.
L'actu est arrivé, le ballon rond derrière. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.